6h04, jeudi 11 octobre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM par cette journée grise de pluie, journée d'automne, c'est frais ce matin, 8 degrés. Et cette pluie intermittente devrait cesser au cours de l'après-midi. Ça demeure nuageux par la suite. Les vents sont, disons, légers. Le maximum, par contre, est à 18 degrés, donc ça va se réchauffer. Ce soir et cette nuit, généralement nuageux, avec du temps un peu plus venteux, minimum de 11 pour la nuit. Et demain, vendredi, soleil-nuage, faible risque d'averse demain matin, après quoi on aura plus de soleil et température relativement stable, près de 10 degrés. L'aperçu pour le week-end, samedi, c'est du soleil 13. Et dimanche, soleil-nuage, 40 % de probabilité d'averse, avec, disons, mercure autour de 12 degrés. Et là, le temps frais semble vouloir s'installer. Et quand je dis le temps frais, je parle évidemment des températures normales de saison. Là, maximum, habituellement, c'est 13-14 et la température minimale est à 4 degrés. On est encore quand même relativement loin de ça. Je commence ce matin par l'ouragan Michael, qui est devenu une tempête tropicale. Bon, on l'a dit tantôt, le bilan, 2 morts, bien sûr, des blessés. Les dégâts matériels sont importants parce que les vents ont été extrêmement violents. Et c'est tout le secteur, donc, de Panhandle, en Floride, qui a été frappé. Il y a environ quoi? 500 000 de personnes, Panama City, où se trouve notre ami Patrick de Bellefeuille de Météo Média, à qui on va parler tantôt. Donc, des vents extrêmement violents, un corridor très large, et les dommages matériels sont quand même, importants. Et il y aura un coût de reconstruction. Et là, vous avez la nouvelle évaluation qui est faite par les experts météo, les experts donc en cyclone, qui nous disent que Michael est devenu une tempête tropicale et qu'elle poursuit sa route, cette tempête, en direction des Carolines, qui a déjà été touchée par Florence. Et on est en train de se remettre. Et là, évidemment, on s'attend aussi à des vents violents, moins importants, mais quand même, ça a été hier, je vous avais vu les images ou encore les photos ce matin, mais plusieurs endroits, des toits arrachés, et vraiment des scènes de dévastation. Deuxième dossier, c'est celui du cannabis. J'en parle ce matin parce que hier, j'écoutais là, toutes les nouvelles relatives au cannabis. D'abord, la position de la Ville de Montréal. C'est simple à comprendre, mais en même temps, ça vient s'ajouter à la liste des règlements qui sont de plus en plus variables et complexes. Alors, c'est quoi la politique de Montréal? C'est là où tu peux fumer une cigarette, tu vas pouvoir fumer un joint. Très bien. Ça veut dire sur la rue. Ça veut dire dans un parc. Donc, dans l'espace public, sauf les endroits qu'on connaît déjà où tu n'as pas le droit de fumer du tabac. Tu ne pourras pas fumer un joint sur une terrasse. Tu ne pourras pas fumer un joint, encore moins dans un restaurant ou dans un bar. Mais tu vas pouvoir sortir du bar puis fumer un joint à l'extérieur. Par contre, des arrondissements pourraient décider du contraire. Alors, ça veut dire que tu ne pourrais pas fumer sur la rue, par exemple, dans Hunsic Quartier-Ville. Il y a d'autres villes associées à Montréal, je pense à Saint-Léonard, qui a une interdiction totale. Le premier ministre, M. Legault, laisse entendre qu'on pourrait avoir au Québec une loi qui viendrait modifier à la fois l'âge pour la consommation, ramener ça à 21, ce qui ne fait pas l'affaire de bien du monde. Le principe étant que si tu peux prendre de l'alcool à 18, est-ce que tu peux prendre du cannabis à 18 ans? C'est une promesse du gouvernement de la CAQ. Deuxièmement, il pourrait interdire aussi la consommation dans les lieux publics. Et là, vous avez des propriétaires qui ont déjà commencé à inclure des clauses dans les baux pour empêcher les gens de fumer. Fait que tu ne peux pas fumer dans ton logement. Si tu n'es pas propriétaire, disons, de ta maison, tu vas fumer où? Sur le balcon, en cachette? Vous allez me dire, oui, mais actuellement, on consomme comment? Bien, un peu comme je viens de décrire. Alors, hier, j'écoutais ça, je me disais, bon, je comprends là, le respect des juridictions, mais d'un côté, vous avez, prenons les cas, là, Québec qui dit nulle part. Montréal qui dit presque partout, dans la mesure où il n'y a pas déjà une interdiction de consommer ou de fumer. Là où j'ai accroché, puis je ne sais pas, là, vous allez me dire que je suis probablement vieux jeu, grognon et dans le champ, Mais moi, c'est sur la police. De dire que le policier peut en consommer en dehors de ses heures, pour ses loisirs, puis que le critère, c'est qu'il n'arrive pas gelé au poste de police pour faire son travail. Là, c'est quoi la responsabilité qu'on est en train de mettre sur les commandants de poste? Puis là, je sais que les policiers sont formés pour évaluer les gens qui ont les facultés affaiblies. Pas tous, là, mais il y en a quand même plusieurs qui ont été formés pour évaluer les gens qui sont en capacité affaiblie en raison de la consommation de cannabis. Puis là, je ne veux pas repartir le débat ce matin des gens qui disent « Je peux bien fumer un joint le soir, puis ça change quoi le lendemain matin? » Correct, là. D'un côté, la GRC, c'est 28 jours. Pour ainsi dire, c'est jamais. Et on peut dire également que entre le dire puis le faire, là, puis de l'appliquer, là, on sait très bien que ça n'arrivera pas. Mais autant le message de la GRC est irréaliste, puis ça devient une interdiction, autant celui du SPVM, pour moi, de la Ville de Montréal, c'est une forme de banalisation. Moi, j'ai de la misère avec ça. Puis, je vais juste vous dire ce que je pense. Puis là, je sais me recevoir... Tonnes de courriels de gens à me dire, quand, pas pire que le gars qui prend un verre de bière après le travail, c'est pas pire. Comprends tout ça, là. Mais que le seul critère soit arriver pas gelé, puis soyez capable de faire votre travail, disons que ça paraît un peu particulier. Deuxième cas ce matin, celui de Michaël Jean. Sommet de la francophonie, là, puis on est dans les hommages, puis on est en train de souligner l'excellent et merveilleux travail de Michaël Jean, qui, disons-le franchement, là, puis on comprend, là, on est poli, puis on est dans le monde diplomatique, ne s'est pas démarqué par de grandes réalisations. Si on demande aux gens qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire, puis quel est le bilan de son mandat, à part, évidemment, les controverses et les scandales, bien peu de choses de tangibles. Et là, j'écoutais M. Trudeau dire qu'elle a fait un travail extraordinaire. Mélanie Joly, qui est là, a dit, ben voici pourquoi on l'a larguée, parce que dans le fond, elle ne va pas d'appui ailleurs. C'est assez limité. Et qu'on a préféré se ranger du côté de la ministre du Rwanda, Mme Louise Mushikiwabo, qui elle-même est assez controversée. J'ai reçu des courriels d'auditeurs rwandais qui disent, M. Arcan, quand vous parlez d'elle, là, juste rappeler un certain nombre de choses. Et les Rwandais sont partagés. Je vous le dis, là, j'ai eu commentaires dans tous les sens. Mais en gros, là, on dit, écoutez, elle parle anglais. Principalement. C'est un régime où les droits et libertés ne sont pas tellement respectés. Les gens qui sont en opposition avec le régime, dont les mandats sont renouvelés, évidemment, dans de très fortes proportions, peuvent être emprisonnés. Bref, avant de dire que c'est extraordinaire puis que c'est le renouveau au sein de la francophonie, il faudrait peut-être se garder une petite gêne. Alors, est-ce qu'on remplace Michaël Jean, la dépensière, et celle qui n'a pas un grand actif puis beaucoup de réalisations, par quelqu'un qui est issu d'un régime un peu sanguinaire, un peu beaucoup dictatorial, où l'anglais est la langue de conversation. Les Rwandais qui me disent qu'au Rwanda, le français disparaît. Alors, c'est ça le symbole de la francophonie. Il n'y a pas une troisième personne, il n'y a pas un troisième candidat potentiel. Ça a l'air que non. En raison des enjeux politiques. Et là, on ne sait pas si le Canada, si le Québec va obtenir une espèce de prix de compensation pour avoir laissé tomber Michaël Jean. 6h13 marque les points chauds par ce matin de pluie. Ça s'installe au pont. Merci beaucoup. On poursuit la revue de presse. Je vais vous parler des chiffres qui ont été rendus publics hier, le bilan de la Direction de la protection de la jeunesse pour tout le Québec. Et les chiffres sont inquiétants. D'abord, c'est pas loin de 16 000 signalements qui ont été faits au Québec, une augmentation de 5,3% par rapport à l'an dernier. Pour être encore plus clair, c'est 263 situations d'enfants qui sont signalées chaque jour, 13 situations de plus que l'an dernier chaque jour. Donc, vous imaginez, là, 260 cas d'enfants rapportés à la DPJ chaque jour. 60 % des enfants pris en charge sont demeurés dans leur milieu familial ou chez un parent, disons, qui est très près. Souvent, c'est la mère, le père, ou le grand-père, en fait, ce que je veux dire, là, mais le père des parents, là, puis on arrive à trouver une façon de faire. C'est pas toujours là, famille d'accueil, puis c'est pas toujours nécessairement en centre. Et il y a 10 000 adolescents qui ont reçu des services dans le cadre de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ce qui est une légère baisse par rapport à l'an dernier. Mais là où c'est inquiétant, d'abord, c'est le nombre là, de signalements. Puis là, vous me direz, oui, mais en même temps, c'est peut-être une bonne nouvelle, c'est que les gens sont plus sensibles. Je veux bien, là. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup, beaucoup d'enfants qui se retrouvent en situation de difficulté. C'est le premier constat. Le deuxième constat, quand vous regardez l'argent investi, et quand on parle du système de santé, on oublie de parler de la protection de la jeunesse. Il y a eu, comme partout dans le réseau de la santé, un ralentissement des investissements. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins d'argent pour les ressources. Et ce n'est pas juste une question d'argent. Il y a l'économiste Pierre Fortin qui a fait un merveilleux tableau dans l'actualité qui nous a expliqué comment, pendant les trois premières années du gouvernement Couillard, on est allé chercher des milliards en ralentissement de dépenses, en augmentation de frais, de taxes qu'on nous a imposés, pour ensuite, avec la cagnotte, décider de nous remettre le fric. On a beau, là, sortir tous les discours, c'est ça qui est arrivé. Sauf que, pour la protection de la jeunesse, les ressources financières ne sont pas au rendez-vous. C'est un des parents pauvres aussi du système de santé. Moi, je parle souvent de la santé mentale, ce qui est vrai, mais la protection des jeunes, la protection des enfants, c'est un autre parent négligé. Deuxièmement, il n'y a pas une journée où je n'ai pas un courriel de quelqu'un qui a une situation litigieuse avec la DPJ. Puis je ne peux pas m'occuper de tous les cas, puis je ne peux pas commencer. Ce n'est pas ma job de faire ça. Il y a des cas qui, parfois, on va les souligner. Et moi, j'ai toujours une version, parce que la DPJ ne me donne jamais l'autre version, au nom de la confidentialité, mais des gens qui me parlent de comportements abusifs, de comportements arrogants, de travailleurs sociaux, ou d'intervenantes qui, évidemment, ont un immense pouvoir entre les mains et qui font du chantage. Puis, on ne me raconte pas, évidemment, parce que ce sont des belles histoires, des interventions qui sont bien faites, des gens qui sont respectueux puis qui comprennent dans quelle situation se trouvent certains parents. Puis quand on parle d'intervention de la DPJ, c'est quand la santé, la sécurité puis le développement des enfants est en cause. Donc, des parents qui sont négligents. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui sont inaptes à avoir des enfants puis qui en ont. Mais je serais curieux, je n'ai pas de chiffres, de voir le roulement de personnel. Je sais qu'à une époque, c'était élevé parce que tu es confronté à la misère tous les jours d'enfants qui sont maltraités. Fait que la DPJ, c'est jamais blanc, c'est jamais noir. Il y a tellement de zones grises. On a heureusement modifié des failles dans le système. C'est pas encore parfait. Je sais que je n'ai pas que des amis à la DPJ, mais tu sais, quand on balançait des enfants, tu sais, je vous donne le cas de la Mauricie, là. Il y a une enquête de la Commission des droits de la personne. On est rendu à deux cas de négligence. Puis le cas, on en a parlé cette semaine, là. Tu sais, un enfant qui est sorti d'un milieu toxique pour être placé en famille d'accueil dans un autre milieu toxique. Puis ça a duré 6 ans. 6 ans que l'enfant s'est retrouvé dans un milieu où on l'a humilié. Puis qui a été négligé, pour ne pas dire autre chose. Alors, tu sais, je pense que c'est important, évidemment, de parler de ça. Signe religieux, Radio-Canada nous dit que l'aspirante policière qui dit vouloir porter le hijab est inquiète. Parce que là, évidemment, elle est première étudiante là, en technique policière à vouloir porter le hijab. Et elle veut rencontrer François Legault pour lui expliquer ce qu'elle veut faire, puis pourquoi elle veut exercer son métier, puis pourquoi elle veut porter son hijab. Bon, François Legault, là, va pas recevoir une personne qui veut expliquer, mettons, là. Il y a un consensus, quand même, au Québec, pour les personnes en position d'autorité, puis ça inclut la police. Et elle a le choix d'envie d'être policière. Elle l'est pas encore, là. Et si elle veut pas respecter les normes prescrite, bien, elle peut ne pas être policière, elle peut décider de faire autre chose. Puis c'est ça qu'elle veut dire à François Legault. Elle dit, Est-ce que je dois repenser ma carrière? Je serais porté à dire oui. Puis ça vient de finir là. Vous savez ce que je pense de l'interdiction dans le milieu scolaire? Puis, tu sais, on n'est pas d'accord. Probablement que la majorité des gens qui m'écoutent ce matin, mais on en discute et on en parle. Mais dans le cas de la police, moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir de signe religieux quand tu as un pouvoir d'arrestation entre les mains. Alors, bien dommage pour elle, mais dans tous les emplois, il y a des contraintes. Hein? C'est quelqu'un qui te dirait, moi, là, je veux travailler dans la construction, mais j'aime pas ça, le casque. Bien là, qu'est-ce que tu veux? Ça en prend un. Puis personne ne t'empêche de porter le voile sur la rue. On n'est pas en France avec des interdictions. On est dans un milieu où tu as le pouvoir entre les mains, et moi, je pense que ça doit continuer de s'appliquer. Alors, de voir quelqu'un qui dit, moi, je voudrais que le premier ministre m'écoute, là, pour qu'il puisse, évidemment, peut-être changer d'idée sur ces questions-là. Aussi, ce matin, un autre dossier, quand même, qui est assez intéressant, ce sont, en fait, les résultats hier sur les marchés boursiers. Je ne sais pas si vous avez vu ça, là. D'abord, aux États-Unis, Wall Street, ça a planté. Et là, je regarde ce matin, Europe, Asie, ce qui veut dire Japon, Séoul, Hong Kong, Shanghai. On parle ici de baisse sur les marchés. Les premiers signes de l'Europe nous montrent que l'indice est à la baisse de 1,5%. Hier, là, tu sais, on dit souvent que le mois d'octobre est associé à des crises sur les marchés boursiers. On a eu souvent là, des lundis noirs sur les marchés. Ben, hier, c'est une baisse de 3,3%. C'est la perte la plus importante sur une période de 8 mois. Et c'est le 5e jour consécutif où il y a des baisses qui ont été marquées. Alors, si vous êtes du genre insécure, c'est pas le temps d'aller voir le relevé de placement parce que ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et là, les analystes s'attendent à ce qu'on subisse, et c'est déjà commencé, cette espèce de contre-coup. Puis sur le plan économique, c'est vrai qu'on cherche des travailleurs partout au Québec. C'est vrai que le niveau de l'emploi est bon, que la croissance économique est là, mais il y a beaucoup d'inquiétudes. D'abord, sur les guerres commerciales déclenchées par les États-Unis, puis là, on pense à la Chine. Également, sur la hausse des taux d'intérêt pour ralentir une certaine inflation. Ça fait longtemps que les taux n'ont pas monté. Donc, la capacité de payer des gens, parce que si le taux monte, on l'a vu, le niveau d'endettement est assez élevé, puis les gens ont besoin de chacun des sous qu'ils reçoivent. Alors, est-ce que vous, s'il y a une augmentation des taux d'intérêt, ça vous place dans quelle position, par exemple, par rapport à votre paiement hypothécaire? Alors, tout ça pour vous dire qu'on va reparler avec Pierre-Yves tantôt, mais c'est sûr que hier, là, ça a été une journée assez mouvementée sur les marchés. 6h23, un accident sur la 40.